Bonjour et bienvenue dans De l'idée au projet, le podcast où on se demande comment monter un projet culturel européen, comment l'imaginer, le pitcher, choisir les bonnes personnes pour y collaborer et surtout comment le financer. Dans chaque épisode, on découvre les coulisses d'un projet ou d'une entreprise culturelle qui nous dévoile les secrets de sa réussite. L'épisode du jour parle d'un projet qui aurait pu en rebuter certains, mais qui a fini par cartonner auprès du grand public. Je veux parler de la mini-série Sambre, réalisée par Jean-Xavier Delestrade et diffusée sur France 2 en France et sur La Une en Belgique. L'histoire d'une enquête policière qui a duré plusieurs décennies pour arrêter un violeur en série que les médias ont surnommé le violeur de la Sambre.
Il y a quelqu'un qui m'a attrapé par le cou.
Ensuite, il m'a allongé sur le sol.
Vous parlez avec un accent du Nord, un accent de chez nous.
Vous voulez déposer plainte?
Vous êtes sérieux, là?
Je pense qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres.
On sait qu'il agit toujours sur la même route, le long de la Sambre.
Mais vous croyez quoi? Que je vais attendre les bras ballants en attendant qu'une autre femme se fasse violer?
Si c'était un père de famille, un type passe-partout.
Il avait une drôle d'odeur aussi.
De l'odeur de cambouis.
C'est qui ce mec, putain?
Pour parler de cette mini-série en 6 épisodes, incarnée notamment par Alix Poisson, Olivier Gourmet, Noémie Lvovsky et Clémence Poésie, je me rends dans les locaux de What's Up Film, la société de production à l'origine du projet. J'y rencontre Mathieu Belghiti, le producteur, et Jean-Xavier Delestrade, le réalisateur. C'est un duo qui collabore depuis très longtemps et vous allez l'entendre, qui développe aussi beaucoup de films ou de séries autour d'histoires judiciaires et de faits divers. Je commence par demander à Jean-Xavier Delestrade ce qui l'intéresse dans la matière du fait divers.
C'est pas tant le fait divers en soi, les faits divers il y en a tout le temps, tous les jours, mais c'est vrai que certains faits divers deviennent des faits de société. C'est presque comme des révélateurs. Un produit chimique qui nous montre un paysage qu'on n'arrivait pas à voir. Il y a quelques histoires comme ça qui sont frappantes par ce qu'elles révèlent de nous.
Mathieu, quand on regarde le site de What's Up Film, on voit que vous produisez surtout des documentaires, mais il y a quand même un onglet fiction avec 5 séries, 4 signées par vous, Jean-Xavier, et une de Sarah Marx, Des blessures invisibles. Qu'est-ce qui vous a décidé à investir le champ de la fiction depuis 2018?
C'est vrai que moi j'ai commencé là-dedans en fait, j'ai commencé dans la fiction, j'ai commencé en produisant des courts-métrages et en fait j'ai découvert le documentaire, on s'est tous rencontrés, on est 3 associés, on s'est tous rencontrés chez Bertrand Tavernier, donc la société de qu'avait Bertrand, Little Bear, et qui faisait les deux, c'est-à-dire que et Jean-Xavier quand je l'ai rencontré il était réalisateur de documentaires et produisait aussi. On s'est rencontrés là-bas et moi j'ai découvert le documentaire en fait. C'était pas du tout ma culture et j'ai adoré ça. J'ai adoré parce que c'est une prise avec le réel et en production c'est aussi une manière peut-être où on est très très proche des équipes, du travail, du contenu, encore plus qu'en fiction où c'est tout de suite beaucoup de monde et une armée. Et donc c'est plutôt le biais était plutôt en effet de développer plus de films, donc d'être dans le documentaire. Et quand on a créé What's Up, c'est vrai qu'on partait de rien et que c'était sûrement plus facile de continuer à développer et à structurer des documentaires et progressivement d'amener, et c'est aussi l'accompagnement du travail qu'on fait avec Jean-Xavier, d'amener progressivement la société à produire davantage de fiction. Voilà.
Jean-Xavier, vous avez rejoint What's Up Film en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça change pour vous, en tant qu'auteur ou réalisateur, d'être aussi coproducteur de vos projets?
J'ai un peu toujours travaillé comme ça. Après l'école de journalisme, j'ai fait une école de journalisme, centre formation et journaliste, et à la sortie de l'école, j'ai eu l'opportunité de pouvoir créer une société de production qui s'appelait Tribulation. Et cette maîtrise de l'outil de travail me semblait très importante. Et donc, j'ai très vite essayé de maîtriser ça en même temps. Après, ce n'est pas forcément simple quand on est auteur. ce qui fonctionne bien avec Mathieu, c'est que à partir du moment où moi je commence à écrire, à développer, Mathieu s'occupe vraiment entièrement de la production et je ne m'en occupe plus du tout.
Je vous propose qu'on se penche sur la série Sambre que vous avez sortie en 2023, diffusée sur France 2. C'est une adaptation du livre de la journaliste Alice Géraud, Sambre, radioscopie d'un fait divers, publié chez J.C. Lattès, qui raconte le destin des victimes de Dino Scala, que la presse a surnommé le violeur de la Sambre, quand il a été arrêté en 2018. Comment est né ce projet? C'est quoi le premier jet, la première fois que vous en avez parlé ensemble?
La première fois que j'ai vu ce projet, il se trouve que j'ai été au CEA, qui est un centre de formation d'écriture. Et Alice, qui était journaliste de formation à la base, qui avait déjà eu une expérience d'écriture sur un scénario, voulait en fait évoluer, changer et se mettre à écrire un scénario. Et elle a présenté ce projet. Et moi, j'avoue que tout de suite, je me suis dit, ce projet, il est incroyable, quoi. Il raconte tellement de choses. Et j'en ai parlé à Jean. Et il m'a dit tout de suite, vraiment très pareil, quoi. C'est super, quoi. Enfin, ça a l'air vraiment super. Rencontrons-la. La chance qu'on avait, c'est qu'Alice, malgré tout, est très cinéphile, regarde beaucoup de choses et, je pense, connaissait notre travail. Et assez naturellement, je crois qu'elle a eu beaucoup de propositions de elle s'est dit, c'est quand même le bon endroit, quoi. C'est la culture et la façon de travailler semblait être le bon endroit.
Donc, dès le début, vous la rencontrez, le projet vous intéresse, vous discutez ensemble, elle a également envie de travailler avec vous. Est-ce que vous faites tout de suite une demande d'aide à l'écriture auprès du CNC?
Ah non, pas tout de suite. Quand on la rencontre, tout de suite, très clairement, on lui dit « projet est super, mais tu ne peux pas écrire toute seule ». Et on dit « il faut qu'on trouve quelqu'un pour écrire avec toi ». Le scénariste un peu habituel de Jean-Xavier, qui le suit depuis très longtemps, Antoine n'était pas disponible.
Antoine Lacombaise.
Antoine Lacombaise n'était pas disponible, pardon. Et donc, on a cherché, je t'avais proposé des noms. Toi, tu connaissais l'un des noms que j'avais sollicité. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et une fois qu'ils se sont mis... Enfin, voilà, on est tous d'accord. Il y a eu un premier travail quand même de long.
Avec ce scénariste, c'est Marc Herpoux.
Ouais.
Avec qui j'avais déjà travaillé, donc que je connaissais assez bien, et avec qui je m'étais entendu. Et je pensais qu'effectivement, dans la liste que proposait Mathieu, c'était celui qui allait sans doute apporter à la fois le plus d'expérience et cadrer assez bien l'écriture. Alice, elle avait l'accès à tous les personnages, elle connaissait... son dossier, mais de manière incroyable. Écrire une série, écrire 6 épisodes, ça demande quand même un peu d'expérience. Et l'enjeu majeur de l'écriture était de trouver une forme pour raconter 30 ans. 3 décennies avec peut-être qu'un seul ou 2 personnages qu'on suit tout le temps, n'était pas évident et il fallait vraiment trouver une forme. Et là, l'apport de Marc Herpoux a été vraiment extrêmement précieux. Et c'est dans des discussions avec lui qu'on a trouvé vraiment la forme de narration.
C'est-à-dire un épisode, un personnage.
C'est-à-dire 30 ans, on garde les 30 ans, mais on prend des bouts de ces 30 ans, on les découpe en tranches, et chaque épisode est vu du point de vue d'un personnage, sur un laps de temps assez court, de quelques mois, parfois quelques semaines. Et entre chaque épisode, il y a une ellipse de 5 à 7 ans. Donc, c'était tout de même assez original et assez inédit, surtout dans la production française. C'était d'autant plus inédit et singulier qu'on s'est dit il faut quand même la tester et faire un premier traitement d'écriture pour voir si ça allait fonctionner, avant d'aller voir des diffuseurs et de demander des aides et tout ça. Et donc, on a quand même beaucoup, beaucoup travaillé avant pour donner une forme à cette écriture, la rendre très concrète, avant d'aller engager des démarches financières.
« Donc, on est en 2020, vous avez décidé de lancer ce projet, vous commandez l'écriture aux deux auteurs, et puis vous faites une demande d'aide au concept et à l'écriture au CNC. Vous touchez 7 500 euros pour participer à payer les frais d'écriture de cette série. Combien ça coûte d'écrire une série ?
Je sais pas, enfin, j'ai pas les chiffres vraiment, vraiment en tête, mais entre l'option, le coût par épisode, on est autour de 30-35 000 euros par épisode, juste pour les scénaristes.
Oh, le coût d'une écriture, c'est jamais moins de 200 000 euros.
Ouais.
Voilà, c'est à la fois un gros investissement et en même temps, vu l'importance de l'écriture, c'est vraiment pas énorme.
Mais c'est quand même un risque financier pour vous. Est-ce que c'est des sous que vous sortez des fonds de WhatsApp Film ?
Alors,
ou est-ce que déjà vous allez chercher des partenaires au moment de la phase d'écriture ?
Alors on sort des sous quand on, on prend un risque, quand on, comme on prend une option par exemple sur le livre, enfin en tout cas sur le travail d'Alice, quand on commande un premier texte d'écriture pour aller démarcher, ça c'est nous seuls. Et après, là en l'occurrence, c'est France Télévisions, partage la moitié des frais d'écriture. Donc pour nous, en fait, on a le risque sur 200 000 euros à 100 000 euros si jamais l'écriture est arrêtée pour une raison ou pour une autre. Voilà.
Il y a le risque de départ, quand même. Le risque de départ, ouais. Surtout sur un projet comme celui-là, qui n'est pas banalisé, qui est assez complexe en termes d'écriture, il y a quand même l'investissement. Avant de pouvoir aller France Télévisions, il fallait être capable de produire un texte qui soit hyper convaincant, vu la singularité de la forme. Du coup, il y a tout ce temps-là de travail des auteurs pour produire ce texte qui est payé par WhatsApp, clairement, sans que l'on sache si finalement France Télévisions va accepter, si on aura un diffuseur. On y croyait, on était assez optimiste, mais en fait, on ne sait jamais. Hein.
Et quand vous dites un texte convaincant, c'est quoi ? C'est le scénario ? C'est du pilote ?
Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une bible. Aujourd'hui, on appelle ça une pré-bible. Très sincèrement, c'est pas du tout ce qu'on a fait nous, d'ailleurs. C'était un texte de 120 pages.
Ouais.
Mais alors c'était aussi un choix des auteurs de pas être elliptique, on l'a parfaitement accepté dans le sens où on s'est dit c'est la meilleure façon d'y arriver. Et d'ailleurs ça a marché très très vite parce que ça a été unanime quoi quand les textes ont. Mais en général on va dire que c'est un texte d'une une quinzaine de pages avec les arches, avec une pré-bible, voilà. Ce qui demande un travail assez conséquent en principe à fournir.
Oui, ça demande beaucoup de travail en fait pour écrire les bibles, même si parfois les auteurs fournissent 20 pages effectivement, plus des arches pour les personnages. Mais là, c'est pas ce qui a été fait pour Sombre. Donc ça, c'était vraiment un travail de plusieurs mois. C'est entre 6 et 9 mois quasiment de boulot.
Je pense que ça avait été présenté fin 2020 finalement.
Donc fin 2020, vous allez voir France Télévisions avec ce gros document de 120 pages.
C'est même France Télévisions qui nous appelle pour être très clair.
Parce qu'ils savaient que vous travaillez sur ce projet.
Ils avaient entendu parler du projet. Et ils savaient qu'on travaillait dessus.
Oui.
Et c'est vrai qu'on le présente après Covid au pitch de La Rochelle c'était à Paris. Tous les diffuseurs qui étaient là, étrangers et autres, vraiment trouvent que c'est un super projet. Et en fait, France Télévisions entend parler de ce projet et se dit « Oulala, mais si vous avez, nous on veut bien le lire ». Voilà. C'est un peu comme ça que ça se fait. Les planètes étaient alignées, je dirais.
Quand on regarde les crédits de Sombre, il y a beaucoup de partenaires avec qui vous avez coproduit cette série. On peut peut-être citer Fédération Studio, Versus Production, la RTBF, Pictanovo. Et on lit aussi avec la participation de France Télévisions. Donc maintenant, on sait à quoi ça correspond. Le soutien de la région Grand Est et de la métropole du Grand Nancy, en partenariat avec le CNC et la ProSyrep Société des producteurs, en association avec Cofinova 19 et SGI. Quand on regarde des génériques de films ou de séries, on se dit toujours, oh là là, mais qui sont tous ces producteurs et tous ces gens ? À quoi ça correspond tous ces noms que je viens de citer ? Est-ce que c'est uniquement des partenaires financiers ? Est-ce que c'est aussi des partenaires créatifs ou logistiques ?
Ça dépend des aventures de production. Là, en l'occurrence, pour Sombre, on va dire que tous les partenaires que vous avez cités nous ont laissé les mains libres pour on va dire pour tout ce qui est artistique,
éditorial.
Mm-hmm. Vraiment.
Après, il y a un accompagnement tout de même de France Télévisions.
Non, bien sûr.
France Télévisions qui suit avec conseillère de programme qui était Carole Lebert. Il y a Fédération qui est chargée des ventes à l'étranger et qui avait un œil quand même sur ce qu'on était en train de faire et qui ont eu un regard sur l'écriture au niveau international. Quelle est la portée internationale de l'histoire et comment on peut mieux la vendre. Donc, ils nous ont fait des retours. Ce sont vraiment les deux partenaires principaux au niveau créatif, d'écriture. Sinon, pour le reste, ce sont des partenaires financiers et qui décident à un moment donné de nous faire confiance et de faire confiance à notre savoir-faire, à nos talents.
Donc, ça veut dire que dès la phase de développement, vous aviez en tête de vendre la série à l'étranger.
Ah, c'était essentiel.
C'était important.
C'était hyper important, ouais. Mais effectivement, une série aujourd'hui produite sur qui amène des personnages sur 30 ans où on change d'époque à chaque épisode, ça coûte cher. Donc, on avait vraiment l'argent de France Télé, du CNC. Là, vous avez cité, il y a deux régions. Quoi. Il y a Picton Nouveau qui est la région nord et on a tourné dans l'est aussi, Nancy et la région est. Donc, ce sont deux partenaires qui sont venus nous aider. Mais ce n'était pas suffisant. On ne boucle pas du tout le budget.
Combien ça coûte, une série comme 100 morts ?
8,7 millions.
Le coût à fabriquer.
Ouais.
Vous avez aussi été cofinancé par le programme Europe Créative de l'Union européenne via l'appel à projet du volet média European Co-Development. Ça, c'est parce que vous avez coproduit avec la Belgique. Vous avez reçu 100 000 euros de l'Union européenne à ce titre. Pourquoi c'était important pour vous que ce projet soit développé entre la France et la Belgique ?
D'abord, je trouve ça très vertueux, moi, souvent, d'avoir quand même une coproduction internationale. Là, pour Sambre, c'était assez naturel parce qu'en fait, une grosse partie de l'histoire s'est déroulée en Belgique. Et puis, on était à la frontière, quoi, réellement. Et c'est une histoire qu'on connaissait assez peu en France, mais qu'on connaissait très bien en Belgique.
L'actualité judiciaire avec le procès du violeur de la Sambre et l'audition aujourd'hui de victimes belges. Je vous rappelle brièvement le contexte. Dino Scala est jugé pour viol et agression sur 56 victimes. C'est Martin Collier qui suit pour nous cette affaire. Plusieurs femmes sont donc entendues en ce moment.
Donc ça paraissait assez naturel, donc très vite et tout de suite. Et d'ailleurs, c'est le travail qu'on a effectué avec Versus, c'est grâce à Fédération. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire que moi, j'aurais dit... Il faut qu'on coproduise vite avec la Belgique, qu'on trouve en tout cas des moyens. On sera sûrement amené à y tourner, on ne savait pas exactement comment. Et en fait, le travail avec c'est eux qui m'ont présenté Versus et s'est effectué en milieu de développement en se disant bon, bah voilà, maintenant qu'on développe, nous, on a besoin de trouver des fonds à la fois pour l'écriture, ce qu'on a dit. Et éventuellement pour la production, c'est comme ça que ça s'est monté. Et l'autre chose, c'est que c'est vrai que assez naturellement, il y avait déjà quand même pas mal de comédiens belges sur la série. Il y avait des techniciens belges,
musiciens,
compositeurs, et avec qui on avait déjà auparavant travaillé et qui sont de très très bons techniciens ou de très bons comédiens ou artistes, quoi. Donc c'est vrai que il y avait quelque chose d'assez naturel, quoi.
Donc une fois que vous savez que vous allez faire cette coproduction avec les Belges, vous vous dites, est-ce qu'on n'irait pas voir du côté de Europe Créative si on peut répondre à un appel à projet ? Est-ce que c'est un réflexe pour vous, qui produisez beaucoup de films et de séries, d'aller voir du côté des aides européennes ?
Oui, bien sûr. Enfin, on a eu plusieurs fois des aides européennes. On a eu sur des groupements de projets. Là, depuis que les règles ont changé, parce qu'elles ont changé depuis quand même quelques années, elle change régulièrement, il faut s'adapter un peu plus, on est moins sur des slates ou sur des... Mais oui, évidemment, bien sûr. Bien sûr, après c'est sélectif, c'est des très gros dossiers à monter, donc oui, évidemment, bien sûr.
Quand vous dites c'est des très gros dossiers à monter, qu'est-ce qu'ils vous demandent par exemple comme pièce ?
Voilà, un roman entier sur les stratégies de développement, d'équipe créative, de production, c'est assez vertigineux. C'est vrai que c'est des dossiers de 40-50 pages sur le travail de réflexion, de production à mener pour l'Europe.
Mais c'est un travail bien spécifique qui n'est pas demandé par ailleurs. C'est vraiment une réflexion de marketing, développement, impact, mais au niveau international, européen, Et donc, c'est un dossier vraiment spécifique.
Et est-ce que c'est juste une corvée administrative parce que personne n'aime faire de gros dossiers, ou est-ce que ça vous apporte quelque chose créativement à la fin ou pas ?
Je pense que ça nous oblige à réfléchir à un certain nombre de points et éventuellement de stratégies. Si on parle du marketing, c'est toujours très tôt quand même. Mais en même temps, au moins, ça pose certaines bases qu'on a pu avoir. Et je pense que la réflexion, c'est de trouver une cohérence dans tout ça. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin du projet, c'est de se dire qu'est-ce qui est cohérent vis-à-vis des choses. Ça nous oblige aussi parfois, et c'est vrai, quand on monte les dossiers, à obtenir des lettres de soutien, des engagements de certains, de faire accélérer certains, de se mettre en accord avec notre coproducteur éventuel, donc là, en l'occurrence, notre coproducteur belge. Donc ça nous apprend à nous connaître aussi. Donc je dirais pas que c'est qu'une corvée administrative, c'est très long et ça demande énormément de travail pour nous en production. Après, c'est vrai que c'est indéfiniment, c'est un travail de stratégie, de réflexion, souvent.
On a parlé de l'écriture, du développement. Quand commence le tournage de Sambre ?
C'était en novembre 2023. Novembre 2023, début tournage, qui va aller jusqu'à mi-mars 2024.
Si tard, la série n'est pas sortie en 2024 ?
Si.
Si.
D'accord. Elle est sortie à novembre 2024.
D'accord, donc en fait, vous finissez le tournage en mars, ouais. Et ensuite vous avez tout le montage, la post-production, et ça sort en novembre.
Oui.
C'est short, non, pour 6 épisodes ?
Bah, c'est sportif. Ouais. C'est sportif. Mais
pour un réalisateur tout seul, ouais, c'est très sportif. Ouais.
Mais moi, j'aime bien. Enfin, c'est pas, je ne sens pas une pression. Parce que pour Des Vivants, on a eu exactement le même planning, le même timing, avec 2 épisodes en plus. Donc, bon. C'est assez short, mais bon, ça se fait. Ce qui est plus difficile, c'est le tournage. C'est le temps qu'on a dans le tournage, qui est le nombre de jours de tournage. Et pour Sambre, assez particulièrement, parce que tous ces changements d'époque font que ça a des impacts sur le plan de travail. Énormément de choses sont impactées par la forme de l'écriture, la forme narrative. Et du coup, on ne peut pas tout tourner en mélangeant tout par décor. Là, il y a plus de pression au moment du tournage. Là, c'est très sportif.
C'est combien de jours de tournage, vous vous souvenez ?
75 jours de tournage, qui est, pour une série de 6 épisodes, qui peut être considéré comme, aujourd'hui, dans les standards actuels, plutôt la fourchette très haute de ce qui se pratique.
Mais ce qui s'explique par ces changements d'époque, la difficulté de...
Qui s'explique par plusieurs choses aussi, enfin... Après, moi, ma manière de réaliser, qui est qu'une seule caméra, donc ça prend un peu plus de temps. Mathieu se débrouille pour que j'ai suffisamment d'argent pour me permettre de tourner dans ce laps de temps-là, qui pourrait être considéré comme légèrement du luxe. Mais bon, c'est du luxe tout relatif.
Après le tournage, le montage, donc la production, il y a la diffusion. Et la distribution. En France, la série a été diffusée sur France 2 en prime time, où elle a fait de très bonnes audiences, plus de 4 millions de téléspectateurs par épisode en direct, et plus de 5 millions en replay sur la plateforme France Télé dans les semaines qui ont suivi la diffusion en linéaire. Est-ce que vous vous attendiez à de telles audiences ?
Je n'étais pas forcément inquiet, mais je me disais que ça peut éventuellement moins marcher que les séries polars classiques que France Télé propose à son public habituellement. Et là, oui, quand même que ça marche aussi bien, que le replay marche très fort. Et après, on a vu quand même, c'est surtout l'impact presque un peu social, c'est-à-dire c'est devenu une série dont on a beaucoup parlé, qui a beaucoup circulé, qui a libéré des choses, qui est rentrée un peu dans l'espace public.
Ce qu'on a vu, je pense, c'est que cette série, elle est arrivée au bon moment. sur la question des violences sexuelles, sur la question du viol, sur la réflexion sur la société. Peut-être que si elle avait été diffusée aujourd'hui, ça n'aurait pas du tout eu le même impact. Et sûrement, si elle avait été diffusée trois ans avant, non plus. Donc je crois que, comme tout à l'heure, je disais, il y a eu un petit alignement des planètes. Et c'est vrai, par rapport à cette série, c'est que ça s'est fait vraiment de manière assez simple, assez facile et sur un sujet aussi compliqué, de manière très harmonieuse pour tout le monde. Et c'est vrai que la diffusion, l'audience, on était très contents parce que c'est une forme de récompense par rapport... plus que l'audience, c'est vraiment en effet les réactions, le fait d'avoir autant de messages de gens qui nous disaient avoir été touchés, avoir été marqués de toutes les générations. Et ça, c'est quand même très, très... je trouve que c'est très... c'est assez formidable. Mais j'ai l'impression... réellement c'était le bon moment. Donc j'aurais été très 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 déçu si ça n'avait pas du tout marché, en effet, parce que je me serais dit mais c'est pas possible quoi, c'est incompréhensible.
Qu'est-ce que ça permet, des bonnes audiences comme ça, soit pour la série, soit pour What's Up en général?
La première conséquence, c'est pour le distributeur. Le distributeur peut très bien s'appuyer en disant voilà, la série qui a cartonné en France, elle est disponible à l'international aujourd'hui. C'est quand même un argument de marketing supplémentaire, de vente supplémentaire pour le distributeur, très concrètement et immédiatement, tout de suite. Pour nous, ça nous permet juste de pouvoir, juste après, présenter un projet autour des attentats du 13 novembre 2015, en disant, on a fait sombre, vous pensiez que ça allait être très dur. On va faire
encore plus dur.
On va monter le curseur de deux niveaux et on va faire quelque chose d'encore plus compliqué, difficile. Ça permet d'aller frapper aux bonnes portes et de dire on va vous le proposer.
Sombre a été vendu au Royaume-Uni, à la BBC, en Belgique à la RTBF. Donc ça, c'est pour la Belgique francophone. La Belgique flamande a aussi vu Sombre à la VRT. En Espagne, c'est Movistar qui l'a racheté. Il y a aussi eu la Lituanie avec LRT, le Portugal avec NOS et Israël avec HOT ou HOT, je ne sais pas comment on prononce. Et puis le groupe Québecor, dont j'imagine qu'il est au Québec. Elle est aussi disponible en France sur la plateforme Max. Combien ça rapporte des ventes à l'international comme ça? Et est-ce que c'était absolument nécessaire à boucler le financement de la série?
Pour l'instant, ça ne nous a pas rapporté énormément, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand un partenaire de distribution s'engage très en amont à la série, il met ce qu'on appelle un minimum garanti. En l'occurrence, la Fédération, qui était notre partenaire de distribution, nous a mis un minimum garanti qui nous permet de fabriquer. Mmh. Donc avant de remonter ce minimum garanti, il faut qu'il y ait un certain nombre de ventes.
C'est comme les avaloirs dans le milieu de l'édition.
Oui, c'est exactement la même chose.
C'est exactement ça. Oui, c'est la même chose.
C'est à ça que je disais, c'était très important d'avoir un distributeur qui s'engage fort, c'est-à-dire que tout de suite, upfront, il nous met de l'argent qui part dans la fabrication de la série.
Voilà.
Mais lui, il faut qu'il fasse un certain nombre de ventes pour remonter l'argent et avant que nous, ça... on puisse en voir après.
Oui, parce que le mécanisme de remontée, de vente, plus son pourcentage et tout, fait que ça met quand même en plus, souvent plus de temps que si c'était juste. C'est pas la même façon qu'un avaloir. C'est un tout petit peu plus compliqué. C'est très important sur le lancement. Ça montre qu'il y a beaucoup de territoires qui ont été en Europe. Il y a une circulation quand même de la série qui est assez forte. Et puis après, ça va perdurer. C'est là où ça va penser, vous dire combien ça peut ramener, je ne sais pas. Pour être vraiment très, 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 très clair, j'en sais rien.
À quoi on mesure le succès d'une série, selon vous, le succès de Sombre? Est-ce qu'il se mesure plutôt à l'audience, au prix, aux ventes à l'international ou au succès critique? C'est quoi votre critère personnel pour estimer le succès de cette série?
Moi, mon critère sur Sombre, ça a été la boulangère du petit village où vit ma mère, qui fait 1000 habitants, tout petit, du sud-ouest. Quand j'y étais 2 mois après la diffusion, et la boulangère me reconnaît, elle me dit, ah non, mais Sombre, ah, mais je l'ai vu je l'ai vu d'une traite. Et puis, j'ai dit à mon mari, il faut que tu regardes ça. Et je l'ai forcé et je l'ai revu avec lui. Là, je me suis dit, ça, c'est un bon critère. Là, on a réussi quelque chose. Après, non, mais ça, enfin, c'est presque une boutade, mais en même temps, ça montre effectivement le pouvoir de la télévision, du service public. Quand on rentre comme ça chez les gens et qu'on amène quand même une réflexion, on amène des prises de conscience, c'est ça la récompense.
Et vous, Mathieu, à quoi vous mesurez le succès de Cendre ? C'est quoi votre critère personnel ?
Les copains de mes enfants, par exemple. Donc, 18 ans, qui vient me voir. Et je me dis, bah, en fait, ça touche vraiment des publics, des gens qui, quand ils vous en parlent, ils sont émus quoi, par ce qu'ils ont vu. Et ça, je crois que c'est vrai que... Moi, je l'avais rarement vécu avec une série, parce que c'est la force des audiences que vous avez citées. Donc ça... Mais je crois vraiment que c'est la même chose. Moi, je trouve que c'est la façon dont les gens vous en parlent en disant « Ah, merci, ça contribue à quelque chose dans mon quotidien. »
Merci beaucoup.
Ben, de rien. Merci.
Si vous n'avez pas encore vu la série, elle est disponible en replay sur France.tv, tout comme la dernière série de Jean-Xavier Delestrade sur les otages du Bataclan, Des Vivants. Et si vous êtes vous-même producteur dans l'audiovisuel, penchez-vous sur les appels à projets du programme Europe Créative, comme celui dont Mathieu et Jean-Xavier ont parlé dans l'épisode, l'appel European Co-Development. Que vous développiez de la fiction, de l'animation, du documentaire ou même un projet immersif, cet appel à projet vous concerne si votre projet est porté par au moins deux sociétés de production indépendantes dans deux pays. Pour en savoir plus sur cet appel à projet, je vous invite à aller faire un tour sur le site du Relais Culture Europe, volet Média. Et moi, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast De l'idée au projet. De l'idée au projet est un podcast du Relais Culture Europe, bureau français du programme Europe Créative. Journalisme et réalisation, Mathilde Mélin.